sais pas, mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Wid le Cher, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh. L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture! Attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte allemand intitulé « La soupe enchantée », issu du recueil « Sorciers et magiciens » de Fiona Waters et Fabien Negrin. Cet instant sera suivi de la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons le texte « Notre droit de partage dans le pouvoir politique » de Benjamin Constant, datant de 1819. Viendra ensuite la rubrique « Environnement », où nous entendrons une utopie en construction de Lyle Watson au sujet de la précognition, la parole de Tamsin Edwards qui nous parlera changement climatique et température, la recette éco-geste pour faire son propre répulsif insecte et deux conseils vitaux pour bien passer l'été. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective, pendant lequel nous parlerons invention des salariés dans le cadre des activités professionnelles. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Les allumeurs de réverbères.
La soupe enchantée, conte allemand, issu du recueil Sorciers et magiciens de Fiona Waters et Fabien Negrin.
Il y a bien longtemps, dans une vieille ville de marché, vivait un pauvre cordonnier, sa femme et leur fils, Hans. Celui-ci avait toujours le sourire, et quand il n'aidait pas son père dans les shops, il tenait compagnie à sa mère, qui vendait des légumes de leur potager, sur la place pavée du marché. Un jour, une étrange vieille femme s'arrêta devant leur étal. Elle avait des yeux perçants, un long nez pointu, et un visage ridé comme un pruneau.
« Ces légumes sont-ils frais ?» demanda-t-elle d'une voix aussi aiguë que celle d'un chat de minuit.
« Bien sûr qu'ils sont frais, » répondit Hans, vexé, tandis que la vieille fourrageait dans les tas de carottes, de pommes de terre et d'oignons.
La mère de Hans le tira par la manche et le poussa de côté. « Je les ai cueillis moi-même ce matin, » déclara-t-elle d'un ton enjoué, en offrant à la vieille une jolie botte de carottes, car elle ne voulait pas offenser une cliente en puissance.
« Pfff !» ricana la vieille. « Mon âne trouve de meilleures carottes sur le bord de la route !»
ajouta-t-elle en repoussant les légumes d'un air méprisant. Hans était furieux, car il savait les légumes de sa mère les plus beaux de toute la place.
« Ce sont les meilleures carottes que vous trouverez ici aujourd'hui !»
s'écria-t-il avec colère. « Si vous ne voulez pas les acheter, allez-vous-en » !»«
Très bien, mon jeune monsieur. Je vais acheter les légumes de ta mère, mais tu dois m'aider à les rapporter chez moi, » dit la vieille. « Je vis de l'autre côté du pont, sur l'autre rive du fleuve. » Hans prit le panier plein et suivit la vieille femme. Ils traversèrent le marché, puis la ruelle animée qui menait au pont, et franchirent le fleuve. Hans fut surpris de se retrouver dans une rue qu'il n'avait jamais vue, bien qu'il connût la ville comme le dos de sa main. Soudain, la vieille femme s'arrêta devant une bâtisse obscure et, ouvrant la porte à l'aide d'une énorme clé, elle poussa Hans et son panier à l'intérieur. À son grand étonnement, Hans découvrit une vaste salle dont le sol de marbre était couvert de tapis richement brodés et dont les fenêtres garnies de lourds rideaux de velours ouvraient sur un merveilleux jardin. Les murs s'ornaient de tableaux anciens et un lustre scintillant illuminait le plafond, tandis que Hans regardait autour de lui, stupéfait, une porte s'ouvrit au fond de la salle et un petit cochon dodu portant un tablier bleu et blanc courut vers la cheminée pour placer une nouvelle bûche dans l'âtre. Un autre petit cochon, également vêtu d'un tablier, trottina jusqu'à Hans et avec une révérence courtoise s'empara du panier de légumes. Une noix blanche apparut alors, portant un bol de soupe qu'elle déposa sur la table en face de Hans. L'oie arborait un ruban rouge autour du cou, un tablier rouge et de minuscules chaussures rouges.
« Tu dois manger un peu de ma soupe avant d'aller retrouver ta mère, » dit la vieille femme. « Elle est délicieuse et tu comprendras pourquoi je tiens à acheter les meilleurs légumes. »
Hans n'avait pas faim, mais il se dit qu'il valait mieux ne pas contrarier la vieille. Et il était curieux de voir si l'oie et les cochons feraient leur réapparition. Il prit donc une cuillère de soupe, puis une autre. Jamais il n'avait rien mangé d'aussi bon. Il vida son bol d'un trait. La vieille l'observait attentivement, et quand il eut terminé, elle émit un rire grinçant. À sa grande horreur, Hans se sentit rétrécir de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne fût pas plus grand que sa cuillère à soupe. Le petit garçon sauta à bas du tabouret et la vieille le chassa vers la cuisine dont elle referma la porte avec fracas. Les deux cochons et l'oie s'approchèrent de lui et lui racontèrent qu'il leur était arrivé peu ou prou la même chose. L'un des cochons était en fait un boucher qui avait apporté de la viande chez la vieille. L'autre était un cuisinier du palais royal. La pauvre oie n'était autre que la princesse elle-même, qui avait disparu du palais depuis plusieurs mois. Hans leur promit de faire de son mieux pour les délivrer du terrible sort que leur avait jeté la vieille femme, car lui, au moins, avait gardé sa forme humaine. La princesse oie lui apprit que la soupe magique de la vieille était faite à l'aide d'une herbe spéciale poussant dans un coin sombre du jardin. Pendant des jours, Hans guetta et attendit et guetta. Enfin, arriva le moment où la vieille laissa la porte entrouverte assez longtemps pour qu'il pût se faufiler dans le jardin pendant qu'elle regardait ailleurs. Il trouva l'herbe, en cueillit prestement un brin, qu'il tint fermement dans sa main, puis il partit vers la ville. Ce fut un voyage dangereux pour quelqu'un d'aussi petit. À maintes reprises, il faillit se faire piétiner. Et une fois, il fut attaqué par un énorme chien, mais d'une façon ou d'une autre, il parvint à en réchapper. Bientôt, il traversa le pont et arriva sur la place du marché. Sa mère poussa un grand cri en le voyant si minuscule. Il réussit à la calmer et lui raconta toute l'histoire. Elle le mit en sécurité dans la poche de son tablier et alla trouver son époux. « Nous devons emmener tout de suite notre fils au palais, » dit le cordonnier. « J'ai entendu dire que la reine déclinait depuis que la princesse a disparu. Ce sera merveilleux de lui apporter une bonne nouvelle. » Le couple se mit donc en route avec Hans, toujours blotti dans la poche de sa mère. Bien entendu, personne ne voulut croire leur histoire quand ils se présentèrent au palais et les gardes commençaient à se faire menaçants lorsqu'apparut le médecin du roi. « Quelle est la cause de ce vacarme ? » s'enquit-il. « La reine a besoin d'un calme absolu. » En l'entendant, le cordonnier se mit à gesticuler frénétiquement et à crier. « Messire, messire, je crois que je puis vous aider, ou en tout cas, mon fils le peut. » Heureusement, le médecin ne savait plus que faire pour guérir la reine et était prêt à tout essayer. Il haussa les sourcils en entendant le récit du cordonnier, les haussa plus encore en voyant Hans. Puis, sans perdre de temps, il fit venir le carrosse royal et lui, le roi, qui était apparu pour connaître la cause de tout ce tapage, le cordonnier, sa femme et Hans filèrent au galop le long des rues étroites et franchirent le pont. Mais seul Hans put voir la route menant à la maison de la vieille. « Il y a visiblement un puissant sortilège à l'œuvre en ce lieu, » murmura le médecin. Quand ils arrivèrent devant la grande bâtisse sombre, la mère de Hans ouvrit la porte avec précaution. Les cochons, la princesse Oua et la vieille étaient là. Cette dernière poussa un hurlement et voulut s'emparer de Hans, mais il se jeta sous son pied et en même temps l'effleura au moyen du brin d'herbe. Il y eut un grand éclair vert, un énorme nuage de fumée noire et une abominable odeur, puis la vieille disparut tout à fait et on ne la revit jamais plus. Hans toucha alors les cochons avec l'herbe magique et à leur place surgirent un cuisinier dodu, coiffé de sa toque et un boucher au visage maigre vêtu d'un tablier bleu et blanc. Ensuite, Hans effleura l'oie blanche et la princesse apparut, tout habillée de blanc avec des roses rouges dans les cheveux. Enfin, la princesse agita le brin d'herbe au-dessus de Hans et il retrouva sa taille normale. Tout le monde s'entassa dans le carrosse royal et regagna le palais. Dès qu'elle vit la princesse, la reine bondit de son lit et se mit à danser de joie. Le roi convia tous les habitants de la ville à un grand festin, le cuisinier eut fort à faire, et bien sûr, le boucher et la femme du cordonnier fournirent la viande et les légumes.
Les allumeurs de réverbères.
Maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes, réalistes, positifs.
Aventuriers? Des résistants, avec un grand R.
Oh. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Notre droit de partage dans le pouvoir politique. Benjamin Constant, 1819. Que le pouvoir s'y résigne. Il nous faut de la liberté, et nous l'aurons. Mais comme la liberté qu'il nous faut est différente de celle des anciens, il faut à cette liberté une autre organisation que celle qui pourrait convenir à la liberté antique. Dans celle-ci, plus l'homme consacrait de temps et de force à l'exercice de ses droits politiques, plus il se croyait libre. Dans l'espèce de liberté dont nous sommes susceptibles, plus l'exercice de nos droits politiques nous laissera de temps pour nos intérêts privés, plus la liberté nous sera précieuse. De là vient, messieurs, la nécessité du système représentatif. Le système représentatif n'est autre chose qu'une organisation à l'aide de laquelle une nation se décharge sur quelques individus de ce qu'elle ne peut ou ne veut pas faire elle-même. Les individus pauvres font eux-mêmes leurs affaires, les hommes riches prennent des intendants. C'est l'histoire des nations anciennes et des nations modernes. Le système représentatif est une procuration donnée à un certain nombre d'hommes par la masse du peuple qui veut que ses intérêts soient défendus et qui néanmoins n'a pas le temps de les défendre toujours lui-même. Mais à moins d'être insensé, les hommes riches qui ont des intendants examine avec attention et sévérité si ses intendants font leur devoir, s'ils ne sont ni négligents, ni corruptibles, ni incapables. Et pour juger de la gestion de ses mandataires, les commettants qui ont de la prudence se mettent bien au fait des affaires dont il leur confie l'administration. De même, les peuples qui, dans le but de jouir de la liberté qui leur convient, recourent au système représentatif, doivent exercer une surveillance active et constante sur leurs représentants et se réserver, à des époques qui ne soient pas séparées de trop longs intervalles, le droit de les écarter s'ils ont trompé leurs vœux et de révoquer leur pouvoir dont ils auraient abusé. Car de ce que la liberté moderne diffère de la liberté antique, il s'ensuit qu'elle est aussi menacée d'un danger d'espèces différentes. Le danger de la liberté antique était qu'attentif uniquement à s'assurer le partage du pouvoir social, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et des jouissances individuelles. Le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbée dans la jouissance de notre indépendance privée et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. Les dépositaires de l'autorité ne manquent pas de nous y exhorter. Ils sont si disposés à nous épargner toute espèce de peine, excepté celle d'obéir et de payer. Ils nous diront « Quel est au fond le but de vos efforts ? Le motif de vos travaux, l'objet de toutes vos espérances, n'est-ce pas le bonheur? Eh bien, ce bonheur, laissez-nous faire et nous vous le donnerons. » Non, messieurs, ne laissons pas faire. Quelque touchant que soit un intérêt si tendre, prions l'autorité de rester dans ses limites. Qu'elle se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux.
Allumeurs de réverbères.
La parole de Tamsin Edwards au sujet du changement climatique et de la hausse des températures. Si en soi, le changement climatique ne provoque pas de maladies, il a un effet sur leur mode de propagation et compromet tout ce que nous faisons pour les combattre. Prenons par exemple le cas du paludisme. La hausse des températures, des précipitations et de l'humidité favorise la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme et leur permet d'étendre leur aire de répartition, augmentant ainsi leur risque de transmission jusque dans les régions où aucun cas de paludisme n'avait encore été signalé. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé estimait qu'entre 2030 et 2050, le changement climatique pourrait entraîner au bas mot 60 000 décès supplémentaires dus au paludisme, même en tenant compte de l'impact d'autres mesures visant à réduire l'incidence de la maladie. La même étude indiquait également qu'en 2030, au moins 5% des cas de paludisme dans le monde, soit 21 millions de cas, seraient attribuables au changement climatique. Ce n'est là qu'un exemple. Mais il existe des centaines d'autres risques sanitaires sensibles au climat. Par exemple, les enfants nés après 2014, qui ont donc moins de 8 ans en 2022, connaîtront 36 fois plus de vagues de chaleur qu'un individu né en 1960, âgé de 62 ans en 2022. En 2020, pas moins d'un cinquième, 19% de la surface terrestre mondiale, a été touchée par une sécheresse extrême, entraînant une forte augmentation des pénuries de nourriture et d'eau. La liste est longue. La vulnérabilité des individus à ces menaces est en grande partie déterminée par des facteurs sociaux. Les impacts pèsent de façon démesurée sur les plus défavorisés, en particulier les femmes, les enfants, les minorités ethniques, les communautés pauvres, les migrants ou les personnes déplacées, les personnes âgées ou souffrant de problèmes médicaux sous-jacents. Tout retard à contenir ces menaces sanitaires affecterait en premier lieu les populations les plus défavorisées de la planète. En effet, la grande majorité des plus pauvres n'étant pas assurée, les crises et les chocs sanitaires font basculer chaque année quelques 100 millions de personnes dans la pauvreté. Et les effets du changement climatique ne font qu'exacerber cette tendance. Pour répondre pleinement à l'urgence de cette crise, nous devons résoudre les inégalités dont elles découlent. À plus long terme, cependant, personne ne sera véritablement à l'abri. L'ampleur des risques sanitaires auxquels nous serons exposés dépendra largement de notre résolution à prendre dès à présent des mesures efficaces pour réduire nos émissions nocives et éviter de franchir des seuils de température critiques et des points de bascule irréversibles. De nombreux États prennent conscience de l'urgence d'agir afin de protéger leurs citoyens des impacts climatiques de plus en plus graves et fréquents. Extrait de « Je reviens de l'inconnu » de Lyle Watson, au sujet de la précognition. Le feu, les eaux séparées. On m'avait raconté au village qu'Ibou Souris s'était rendu une fois en pleine nuit chez Pagdarus, un de ses vieux amis, qui lui vivait aussi seul, et qu'elle avait insisté pour qu'il quittât sa hutte immédiatement. Elle avait rêvé, lui dit-elle, qu'un orage abattait le Ketapang, l'arbre, à côté de sa hutte, et le tuait. Darus était un vieil homme épris d'indépendance. Voyant que le lagon était parfaitement calme, il avait traité Ubu Souris de pauvre folle et avait ajouté qu'elle était bien trop vieille pour traîner dehors et rendre visite aux hommes la nuit. Ibou Souris lui avait lancé quelques épithètes bien senties en langage ancien, puis s'était retirée fort mécontente. 2 heures plus tard, un violent orage éclatait brusquement et l'énorme amandier tropical s'écroulait en plein sur le lit de Pagdarus. Mais le vieux avait dû prendre l'avertissement au sérieux, car à ce moment-là, il dormait à l'extérieur, sur la véranda, et il n'eut pas la moindre égratignure. L'événement produisit au village une consternation à laquelle j'étais loin de m'attendre. Je n'en compris vraiment la raison que lorsque je devins plus familiarisé avec les croyances islamiques. Mahomet lui-même a dit qu'Allah donne 5 choses à ses fidèles. Leur maison, la nourriture qui leur est nécessaire, leurs actes, leur voyage et la durée de leur vie. Et que toutes ces choses sont décrétées et immuables. L'imam pensait que la chute de l'arbre était un acte d'Allah, que la mort de Darus avait été décrétée et qu'il était déraisonnable et sacrilège de sa part d'avoir voulu l'éviter. Le vendredi suivant, son chatib, le prédicateur Marduk, condamna dans son sermon Pagdarus et Ibou Souris pour avoir bravé la volonté d'Allah. Quelques-uns dans la communauté estimèrent que le rêve d'Ibou Souris faisait partie du plan divin et qu'Allah voulait que Darus fût averti. Mais ils ne furent guère suivis. Cela tourna à une confrontation entre les jeunes musulmans orthodoxes et les anciens du village, qui détenaient encore des croyances animistes traditionnelles, croyances qui avaient été très puissantes dans la vie de l'île avant l'arrivée de l'actuel imam. Mais ce qui me surprit le plus, ce fut l'argument qu'ils utilisèrent. À mes yeux, le rêve était l'aspect le plus étrange et le plus passionnant de l'histoire, car il contenait un avertissement touchant un événement qui ne s'était pas encore produit. Alors que pour eux, l'orage était bien plus important. Ils pensaient que c'était la colère d'Ibou Souris contre Pagdarus qui avait provoqué l'orage et fait tomber l'arbre sur le lit vide du vieux pour lui donner une leçon. Et qu'Allah, dans toute sa puissance, n'avait pratiquement rien à voir dans cette affaire. Pagdarus et Ibou Souris ne prirent aucune part à la discussion, qui se poursuivit des semaines durant. Elle ne se termina que lorsque le vieux Darus décida de ne pas construire sa maison et de monter à Desalangit, le village du ciel, une agglomération située sur les pentes du Gunung Api où régnaient encore les anciennes traditions. Ibou Souris continua de vivre à son habitude, elle dansait, enseignait son art et brossait ses longs cheveux gris à l'ombre. À l'époque où j'arrivais à Nustarian, la blessure laissée par cette affaire n'était pas encore tout à fait refermée, et Ibou Souris
n'aidait guère à sa cicatrisation en exécutant sur la plage une danse étrange chaque fois que la tempête faisait rage sur le lagon. Je m'entretenais avec elle aussi souvent que cela était possible, mais c'est seulement quand je découvris qu'elle avait, comme Tia, la facilité d'entendre en couleur, que j'en vins à établir un rapport entre le mélange des sens et la précognition. Précognition signifie « connaître d'avance ». Cela implique que les effets précèdent parfois leur cause, un véritable pied de nez à la logique de la science. Pourtant, et c'est peut-être le plus étrange, la physique n'interdit pas qu'il y ait transmission d'informations du futur au présent. En effet, cela se produit tout le temps. Si l'on fait passer un courant électrique dans un système pendant un certain temps et qu'on le coupe brusquement, plusieurs choses se passent avant l'extinction proprement dite. Deux ondes précurseuses se manifestent juste avant la coupure. L'une se propage, comme toutes les ondes électromagnétiques, à la vitesse de la lumière. L'autre est presque aussi rapide, mais est ralentie par les propriétés du médium qu'elle traverse. Ensuite, à une vitesse beaucoup plus lente, le phénomène lui-même de la coupure se produit. Des signaux concernant un événement qui va se produire précèdent la réalisation de cet événement.
Et enfin, pour finir cette rubrique environnement, la recette éco-geste pour vous et pour faire plaisir à vos proches. La recette pour confectionner un répulsif contre les moustiques et deux conseils indispensables pour aborder la saison estivale. Allons-y pour le répulsif anti-moustique, écologique, économique et efficace. Dans votre bec verseur, versez 100 ml d'eau. Ajoutez 15 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Prenez un flacon spray, versez ce qui se trouve dans votre bec verseur dans le flacon spray, secouez, c'est prêt. Néanmoins, avec cette recette, il faut penser à bien agiter le spray avant chaque utilisation. Si vous ne souhaitez pas être acteur de cette agitation, ajoutez aussi à votre mélange une cuillère à soupe de vodka ou une cuillère à soupe d'alcool à 70 degrés. Agitez une fois, c'est prêt. Vous venez de confectionner un répulsif anti-moustique, efficace, économique et écologique. Si vous avez peur pour les allergies dues aux huiles essentielles, faites un test en sprayant une petite quantité sur votre bras de ce mélange et attendez 24 heures avant de l'utiliser davantage. Et maintenant, les deux conseils pour éviter les mauvaises aventures. Rappel, la température d'une voiture à l'arrêt en été monte très rapidement à plus de 50 degrés, ce qui est pour la plupart des êtres vivants une température insupportable, voire mortelle. Alors, n'oubliez pas vos animaux de compagnie dans votre véhicule, même pour quelques minutes, on ne sait jamais. Et n'oubliez pas non plus qu'eux se plaindront rarement, c'est donc à vous de veiller sur eux. Et bien sûr, n'oubliez pas non plus vos enfants. S'il vous reste un peu de temps pour être attentif pour d'autres, surtout n'hésitez pas. Et enfin, voici une astuce pour savoir si pendant vos vacances, alors que vous étiez absent, il n'y aurait pas eu une coupure d'électricité suffisamment longue pour que ce que vous avez placé au congélateur ne soit plus comestible, voire dangereux à consommer. L'astuce est simple. Faites tout cela avant de partir, bien sûr. Versez de l'eau dans un récipient. Placez-le au congélateur. 24 heures plus tard, vérifiez que l'eau placée dans le récipient est bien congelée et placez sur ce glaçon une pièce de monnaie. Si à votre retour, la pièce est toujours bien placée sur le dessus, c'est bon. Par contre, si la pièce n'est plus en surface, faites très très attention, voire sortez le sac poubelle sans vous poser davantage de questions.
passé de très bonnes vacances.
Les allumeurs de réverbère vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de réverbère.
Les inventions des salariés dans le cadre des activités professionnelles. Convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021, étendue par arrêté du 5 avril 2023. En vigueur étendue. Article 8.1. Invention des salariés dans le cadre des activités professionnelles. 1. Règles générales. Les règles relatives aux inventions des salariés sont fixées par l'article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi sont réputées appartenir à l'employeur les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Les formalités que le salarié et l'employeur doivent effectuer l'un envers l'autre, notamment la déclaration d'invention du salarié, les communications de l'employeur et l'accord entre le salarié et l'employeur, sont précisées par l'article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Le salarié et l'employeur doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la loi. Lorsqu'un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de titre de propriété industrielle par celle-ci, le nom du salarié sera mentionné par la demande de brevet ou de certificat d'utilité et reproduit dans l'exemplaire imprimé de la prescription, sauf s'il s'y oppose. Cette mention n'entraîne pas par elle-même le droit de copropriété. 2. Rémunération du salarié. Invention brevetable appartenant à l'employeur. Si cette invention donne lieu à une prise de brevet par l'entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l'invention, qu'il ait accepté ou non d'être nommé dans la demande de brevet. Si dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet ou du certificat d'utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l'invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois, pourcentage du salaire, participation au produit de cession du brevet ou au produit de licence d'exploitation et ceci même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté l'entreprise. L'importance de cette rémunération sera établie en tenant compte des missions, études et recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention sur le plan commercial. Le salarié sera tenu informé par écrit des divers éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire, le mode de calcul et de versement de la rémunération ainsi que le début et la fin de la période de versement feront l'objet d'un accord écrit, sauf dans le cas d'un versement forfaitaire effectué en une seule fois. Invention non brevetable. Ces inventions ainsi que les innovations émanant des salariés utilisées par l'entreprise pourront donner lieu à l'attribution de primes. Article 8.2. Création de logiciels. Conformément à l'article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle et sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs. Toute contestation sur l'application de ces stipulations est soumise au tribunal judiciaire du siège social de l'employeur. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'article 8.1 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021.
Bravo, Convention collective!
C'est beau ça, maman, hein?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Et voici, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous sommes au terme de cette émission. Et c'était la dernière émission des Allumeurs de Réverbères pour un temps indéterminé. Pour retrouver tous les épisodes des Allumeurs de Réverbères depuis 2020, rendez-vous sur le site internet allumeurs-de-reverbères.fr. N'hésitez pas à nous contacter et à laisser des mots doux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour, habillage musical Chaban Musique. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.